France Inter. L'heure philo. L'heure philo jusqu'à 21h. Lilian Alaume à la réalisation, Chantal Le Montagnier à la préparation, Djoubaka au choix des disques et Baptiste Collion à la console.
L'heure philo. Patricia Martin sur France Inter.
You come home from work, she's lying around on the couch, kids are dirty, there's diapers on the floor. Sometimes the kids is outside, running around, nobody watching them.
Wanda Goronski.
Listen, Judge, if he wants a divorce, just give it to him.
You know what happened to me? Somebody stole all my money.
Extrait du film Wanda de Barbara Loden. Le film est sorti en 1970 aux États-Unis. Il raconte l'histoire d'une femme qui a deux enfants, un mari qui travaille à la mine. Ça se passe au milieu des terrils de Pennsylvanie. Et Wanda décide de tout quitter. C'est un film où l'on a froid, où une gifle fait mal longtemps, où l'on a peur d'oublier l'ordre qu'on vous donne, a écrit sur ce film Bertrand Tavernier. Bonsoir Michaël Provost.
Bonsoir.
Vous publiez un essai intitulé « L'expérience de l'oppression, une phénoménologie du sexisme et du racisme ». Le livre est sorti aux presses universitaires de France et vous parlez à plusieurs reprises de ce film. Vous écrivez que Wanda est seule, qu'elle n'a personne autour d'elle à qui se rattacher et qu'au fond, elle n'a pas vraiment conscience, même si elle finira par partir et par divorcer, elle n'a pas conscience de vivre une oppression.
Oui, c'est un film que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marquée. Parce qu'à la fois, donc, c'est le récit, d'une femme prolétaire qui perd un petit peu tout au fil du film et qui semble un peu absente au monde, en fait, et aussi absente à elle-même et absente à sa propre expérience.
Comme si ce qu'elle vit n'avait aucun poids, en fait.
C'est ça. Un peu une figure comme ça d'errance. Et en même temps, elle a perdu tous les attributs de la féminité traditionnelle, donc la maternité, le fait d'être mariée. Enfin, elle perd tout ça, en fait, et elle suit donc un petit gangster qui
oui,
prépare
après son,
un hold-up.
Après avoir quitté son mari, oui.
Voilà. Et en fait, ce qui m'intéressait dans le film, c'est que ça paraît être une figure d'aliénation, enfin d'absence à soi et au monde. Et en même temps, comme le personnage est joué par la réalisatrice, par Barbara Loden, il y a cet effort pour vraiment incarner ce personnage, lui redonner aussi une sorte de force, de dignité, je pense, dans la solitude, qui empêche une vision objectivante de l'oppression ou une vision victimaire. Enfin, ça n'enferme pas en fait son expérience dans un récit qui surplomberait ce vécu.
En tout cas, vous donnez drôlement envie de voir le film, je peux vous dire. Qu'est-ce qu'il faut, en fait, pour percevoir véritablement une situation d'oppression? C'est-à-dire, pour l'appréhender, pour se dire à un moment donné que oui, c'est un problème, et qu'éventuellement, ça vous met en colère. Je ne dis pas que ça peut aller jusqu'à la révolte, mais déjà, la colère.
Oui. Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle un peu classiquement une prise de conscience, quoi. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, une réalité de violence, d'oppression sexiste ou capitaliste va devenir insupportable et susciter une forme de frustration, de rage, de colère, de révolte. Et en même temps, moi, dans le livre, mon objectif, c'était aussi de déplacer cette question-là de la prise de conscience pour penser les choses aussi en termes d'attention, de perception. Donc, éviter l'idée qu'il y aurait tout d'un coup un moment pivot qui nous ferait passer d'un état d'oppression à un état de résistance qui lui succéderait, mais plutôt essayer de compliquer en fait cette image très linéaire en fait des récits aussi d'émancipation pour voir que les choses parfois sont plus mêlées. Et il y a une forme de d'ambivalence parfois dans ce vécu et à mon avis, on a tout intérêt à sortir d'une conception trop réflexive, trop instantanée, en fait, de la prise de conscience qui serait comme ça ce moment de basculement. Alors, bien sûr, il y a des moments de basculement, mais parfois, ces moments, ils s'étirent aussi sur un temps un peu plus long.
Oui, c'est un processus, en quelque sorte, oui. Alors, vous passez vraiment, je dirais, au peigne fin à la fois le sexisme et le racisme. Pour vous, ce sont les deux branches d'un même arbre. Je vous pose la question parce que vous appuyez votre réflexion sur Simone de Beauvoir et sur Frantz Fanon, psychiatre et essayiste martiniquais absolument formidable qui a réfléchi au racisme, au colonialisme. Il a notamment écrit « Peau noire, masque blanc » et puis « Les damnés de la terre », des ouvrages qui font date. Il y a un lien étroit entre le sexisme et le racisme ?
Alors, ce qui est compliqué, c'est que j'ai pris plusieurs oppressions sans qu'il y ait forcément de croisement possible, puisque Fanon et Beauvoir ne développent pas d'analyse intersectionnelle, en fait. Donc, c'est plutôt un modèle analogique de mise en écho, en fait, d'expériences qui sont très distinctes et qui ne se réconcilient pas forcément, qui ne se recoupent pas forcément. Donc, le vécu des femmes blanches mariées dans un cadre conjugal chez Beauvoir et...
Et le racisme chez Fanon, et plutôt qu'est-ce que ça fait d'être martiniquais à Lyon, en l'occurrence, dans les années 40, des années 40 plutôt.
Oui, voilà.
Donc, c'est très particulier. Enfin,
c'est toujours très localisé. Et chez Fanon, il y a aussi une analyse après, du coup, dans l'enceinte de la révolution algérienne et dans les années du vécu vraiment colonisé. Donc c'est aussi une autre forme de racisme. Enfin, ça se recoupe pas. Il y a des ruptures entre Peau noire, masque blanc et ses ouvrages ultérieurs. Donc il fallait tenir un petit peu ce fil d'expériences qui sont très localisées, qui ne se recoupent pas et qui ne sont pas des déclinaisons en fait d'une définition homogène de l'oppression. Et du coup, il fallait travailler un petit peu les conflits, les différences, sans les niveler, sans les mettre sur un même niveau et sans décliner. Avoir cette idée que ces expériences seraient des sortes de variantes d'une structure universelle de l'oppression. Ça, c'était pas ce que je souhaitais faire. Et je ne souhaitais pas non plus les mettre sur un même plan, au sens où le vécu colonial en fait n'a rien à voir, ni en termes de violence, ni en termes de gravité, avec l'oppression sexiste, patriarcale, décrite par Beauvoir.
Justement, Simone de Beauvoir, c'était sur Radio-Canada en 1967.
Nous sommes dans une démocratie bourgeoise. Mais des démocraties bourgeoises, ce sont en vérité des pays qui sont gouvernés par une classe dominante qui est la bourgeoisie. Et cette classe dominante qui est la bourgeoisie, eh bien, à ce moment-là, elle veut garder le pouvoir. Et une des manières dont elle va garder le pouvoir, c'est précisément de garder la femme au foyer. Ça pour des tas de raisons. Parce que la classe bourgeoise a intérêt au statu quo, donc elle a intérêt à ce que les gens soient dépolitisés. Empêcher les femmes de travailler, les empêcher de se mêler à la vie publique, c'est avoir tout un public votant et à la fois dépolitisé, qui par conséquent va être là à voter pour le pouvoir personnel, pour De Gaulle, pour l'apolitisme. Et en même temps, si la femme est dépolitisée, elle dépolitise l'homme. Ça c'est très important, que toujours l'émancipation de la femme a été liée à l'émancipation sociale. Et on empêche la femme d'être politisée si on l'empêche de travailler. Parce que la vraie politique, ce n'est pas le bulletin de vote qui sert au contraire à maintenir la dépolitisation. Parce qu'on votera pour, mettons, le pouvoir personnel. C'est la participation à des syndicats, à des groupes de pression. C'est par le travail seulement, par la vie économique, qu'un individu peut s'intégrer à la vie sociale. Alors on maintient la femme loin de la vie économique, à la maison, donc on la maintient loin de la vie politique. Si vous voulez, je crois que c'est une des raisons très fortes pour lesquelles il y a tout ce mouvement contre l'émancipation féminine. Et ajoutons aussi qu'une société bourgeoise, naturellement, veut maintenir en même temps que ses infrastructures, ses superstructures, c'est-à-dire sa morale et son éthique, et que parmi les valeurs de la bourgeoisie française, il y a essentiellement toutes les valeurs de la féminité, de la maternité, de la vie d'intérieur, de la vie de foyer, etc., etc. Alors notre bourgeoisie moderne et technocratique conserve sur ce plan-là toutes les valeurs de l'ancienne bourgeoisie, il n'y a là-dessus pas de changement.
Voilà, elle dit beaucoup de choses, Simone de Beauvoir. Vous avez envie de réagir à ses propos sur le fait, cet empêchement, le fait de tenir sous sa coupe, d'infantiliser aussi, en quelque sorte, les femmes. Là, il y a aussi, quand même, on peut peut-être faire un rapprochement, je ne sais pas, enfin, vous ne serez peut-être pas du tout d'accord, avec le colonialisme.
En tout cas, dans le deuxième sexe, ça c'est un problème qui l'habite vraiment, que les femmes en fait ne sont pas habitées, comme elle le dit, par un esprit de révolte. Donc elles sont finalement invitées à la complicité, ça elle le dit vraiment dès l'introduction. Aucun esprit de révolte ne l'habite. Elles ressentent pas de colère, en fait, à l'égard de l'oppression patriarcale. Donc elles sont isolées dans des foyers. Voilà, elles sont très séparées. Elles peuvent pas se constituer en groupe politique, justement. Elles ne parviennent pas vraiment à tisser de liens entre elles, à mettre en écho leurs expériences pour politiser ce vécu-là. Donc elles sont assez seules, en fait. Elles sont assez isolées. Et elles sont coupées du monde. Et elles sont coupées du monde parce que, voilà, elles sont privées, en fait, de la possibilité de croire en elles, de penser, de pouvoir penser sans y être autorisées, de pouvoir créer, de pouvoir vraiment agir dans le monde. Et tous ces empêchements-là, ces privations, justement, les met en quelque sorte en retrait et les met dans une forme d'effacement. Et du coup, c'est ça qui rend très difficile la politisation de leur vécu. Et en même temps, Beauvoir souligne aussi que, malgré tout, les femmes sont libres. Et ça, c'est quelque chose d'important dans la pensée existentielle, c'est qu'on n'est pas dans un récit d'aliénation complètement accablant. Donc elles sont libres, mais les rapports en fait à la liberté diffèrent en fonction des situations, justement, voilà, d'oppression patriarcale ou coloniale, etc. Enfin, elle fait des analogies, elle s'appuie aussi sur Richard Wright, l'écrivain africain-américain, pour faire des analogies comme ça entre oppression raciale.
Que vous citez d'ailleurs vous-même à plusieurs reprises.
Oui, voilà. Et en fait, elle fait ce travail analogique pour montrer que justement, les femmes ne parviennent pas à avoir un rapport authentique, sincère, à leur propre liberté. En fait, elles n'y croient pas. Et du coup, c'est ça son problème. Enfin, le problème qui la préoccupe, c'est ce manque de confiance en la liberté. En fait, les femmes ne croient pas en leur propre liberté, donc elles ne peuvent pas l'approfondir, en fait.
Alors, après Simone de Beauvoir, Frantz Fanon, c'était en 1956, cette fois, lors de la conférence prononcée au Congrès international des écrivains et artistes noirs.
Le racisme, nous l'avons vu, n'est qu'un élément d'un plus vaste ensemble, celui de l'oppression systématisée d'un peuple. Comment se comporte un peuple qui opprime ? Ici, des constantes sont retrouvées. On assiste à la destruction des valeurs culturelles, des modalités d'existence. Le langage, l'habillement, les techniques sont dévalorisées. Comment rendre compte de cette constante ? Les psychologues qui ont tendance à tout expliquer par des mouvements de l'âme, prétendent retrouver ce comportement au niveau des contacts entre particuliers. Critique d'un chapeau original, d'une façon de parler, de marcher. De pareilles tentatives ignorent volontairement le caractère incomparable de la situation coloniale. En réalité, les nations qui entreprennent une guerre coloniale ne se préoccupent pas de confronter les cultures. La guerre coloniale est une gigantesque affaire commerciale et toute perspective doit être ramenée à cette donnée.
Explication de texte, Michaël Pourbeau.
Ce qui est très important dans les propos de Fanon, c'est qu'en fait, la question de l'oppression coloniale et donc l'exploitation en fait aussi sur laquelle elle s'adosse n'est jamais séparée d'une déstructuration des langues, des façons de vivre ensemble, donc aussi de la possibilité pour un peuple de s'incarner dans des valeurs culturelles.
Il parle d'agonie continue d'une culture.
Oui, c'est ça.
Plus loin dans son discours, c'est terrible.
Ouais, il y a une forme de pétrification en fait aussi des valeurs, des possibilités artistiques, esthétiques, qui pétrification donc qui est encouragée par le système colonial. Et ça, c'est quelque chose de très important chez Fanon, c'est qu'en fait, ces dimensions-là de la vie ordinaire, la possibilité de créer, de parler, d'écrire, de penser, donc de s'incarner aussi en tant que peuple, ces possibilités-là, elles ne sont jamais séparées de la question de la lutte, en fait. Et la lutte décoloniale a pour viser aussi de réouvrir cette possibilité pour un peuple de s'incarner dans des valeurs. Et je pense que ce souci-là de tenir les choses ensemble, la lutte décoloniale, donc voilà, la transformation politique globale et en même temps les expériences très ordinaires, culturelles, esthétiques, etc., elle vient aussi du parcours de Fanon, donc qui était psychiatre et qui a travaillé avec François Toscaïès, par exemple, à Saint-Alban, en Lozère, donc... autour de la psychothérapie institutionnelle, avec cette idée que transformer le monde, ça passe aussi par une transformation des arts, la possibilité de recréer du commun, de faire un collectif autour des manières de créer, de parler, de se vivre en tant que corps aussi.
Michaël Provost, je rappelle que vous êtes parmi nous pour un essai publié au PUF, L'expérience de l'oppression, une phénoménologie du sexisme et du racisme. On va voir ce que c'est tout à l'heure que cette approche très particulière qui est la vôtre. Aspiration, c'est Zao de Sagazan.
Quelques aspirations et la spirale commence pour de l'inspiration. Madame caresse la démence, mais jamais ne s'arrête et jamais ne s'arrêtera cette fois dans la tête qui toujours la ramènera à sa jolie cigarette, à sa jolie cigarette. Sa dernière cigarette, de celles qui font tourner la tête. Quelques aspirations et la spirale recommence pour de l'inspiration. Je deviens bête, tout devient dense, mais jamais.
Waouh, qu'est-ce que c'est bien, ça vous a plu? Oui, bon. Alors, Michaël Provost, je voudrais, sans qu'on soit pédant ou trop savant, dire un mot quand même de l'approche qui est la vôtre. Parce que vous pensez l'oppression, qu'elle soit raciste ou sexiste, dans une perspective phénoménologique. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Il faut peut-être rappeler, un petit peu nous rafraîchir les neurones, qu'est-ce que c'est que la phénoménologie? C'est une façon quand même particulière d'aborder les choses.
Oui, c'est une tradition de pensée donc qui est née vraiment avec Husserl au début du XXe siècle et après qui a pris des formes très variées. Et en fait, l'existentialisme donc de Sartre, de Beauvoir, voilà, s'inscrit dans cette lignée-là. Et Merleau-Ponty aussi a
Merleau-Ponty sur le corps, Lévinas voilà. Sur autrui a eu cette approche-là. Heidegger qui a abordé le temps d'une manière phénoménologique. Ricoeur aussi,
on peut dire
Ricoeur, la volonté, enfin bon.
Donc voilà, il y a des formes très différentes et des manières de pratiquer la phénoménologie qui sont très différentes.
Mais c'est quoi? C'est une étude descriptive des phénomènes?
C'est c'est une réflexion sur la manière dont le monde apparaît à une subjectivité qui est incarnée. Donc une réflexion aussi sur ce qu'est l'expérience vécue en tant que c'est à partir d'elle qu'on va réfléchir à l'apparition, du monde. Comment les choses se donnent à une subjectivité ou à une conscience chez Husserl. Comment un sujet situé avec un corps, avec un esprit qui est situé au sein d'une certaine situation dans le monde, en fait reçoit les événements du monde, comment il s'ouvre au monde. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que le monde et la subjectivité incarnée ne sont jamais séparés. En fait, c'est pensé comme une relation. Il n'y a pas de monde indépendamment d'une subjectivité incarnée.
Merleau-Ponty écrit être une expérience, c'est communiquer intérieurement avec le monde, le corps et les autres, être avec eux au lieu d'être à côté d'eux.
Oui, voilà, c'est vraiment cette idée de relation. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les écrits de Fanon ou de Beauvoir, il y a une sorte de réappropriation de la perspective existentielle ou phénoménologique, mais avec des déplacements en fait majeurs, puisque les situations et le monde n'est plus le même en fait. Mmh. C'est un monde voilà qui est structuré autour de corps qui sont dominants, qui sont blancs, qui sont ceux des hommes. Donc c'est un monde qui est structuré par le patriarcat ou par le racisme ou par le colonialisme. Et du coup, ça change quelque chose de cette relation entre la subjectivité incarnée et le monde.
Mais l'expérience, dans son sens philosophique général, on va dire, c'est lié à la cognition avant tout ?
Justement, dans la tradition phénoménologique, en fait, c'est plutôt lié à la question de la perception, de l'attention. Donc, il y a cette importance de la conscience, mais du coup, il y a des déplacements qui sont faits par Merleau-Ponty et puis, par Beauvoir, par Fanon. Et en fait, l'expérience, ça reste un problème. C'est pas forcément un point de départ à partir duquel on va pouvoir construire l'analyse philosophique. C'est aussi ce qui peut s'interroger et être posé comme problème. Et en fait, savoir ce qu'est une expérience d'une situation, ça reste quelque chose d'énigmatique. Et justement, la cognition ou la prise de conscience n'est pas forcément le premier élément, le premier critère à partir duquel on va comprendre l'expérience.
Mais à partir de quel moment l'expérience va devenir un vécu qui a de l'importance, un vécu qu'on va rendre intelligible, qu'on mettra d'ailleurs en mots, parce que la mise en mots aussi, c'est important. Vous le disiez un peu tout à l'heure, au départ, le féminisme, ça pouvait n'être que des impressions un peu vagues, vous le montrez très bien d'ailleurs dans votre essai, Michaël Prémont.
Oui, c'est ça, j'essaie de distinguer des sortes de variations d'expériences qui n'ont pas toutes les mêmes qualités politiques. Et cette question de l'attention, de la perception et de ce qui compte pour soi comme expérience, pour moi c'est un problème. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis inspirée des théories post-structuralistes qui sont elles-mêmes inspirées de la psychanalyse, donc Judith Butler ou Joan Scott, avec cette idée que ce qui compte pour soi, en fait, ce qui est intime, ce qui peut retenir l'attention, ce qui peut être objet de souffrance ou de douleur, ce n'est pas donné, ce n'est pas évident. Et parfois, c'est par une torsion du langage que l'on parvient, en fait, à travailler sa propre attention à son expérience. Et qu'on parvient aussi à décrire quelque chose comme intime. Et ça, Audrey Lorde, justement, elle travaille sur ce point, cette articulation-là.
Mais ça veut dire qu'on se constitue, en fait, à travers une expérience. On n'est pas seulement exposé à elle.
Oui, exactement. Enfin, c'est vraiment tout ce que déploie aussi Joan Scott sur cette question. En fait, elle dit que ce ne sont pas des sujets qui ont des expériences, c'est des sujets qui se constituent à travers les expériences qu'ils ont. Et du coup, le rapport à soi, en fait, se tisse aussi par une suite d'expériences que l'on a et par la possibilité d'y revenir, d'y porter attention, de mettre des mots.
Et de la recomposer, en quelque sorte.
Voilà, complètement. Donc, c'est pour ça que, moi, mon analyse, elle prétend pas partir d'une expérience qui serait donnée comme ça. J'essaie de travailler sur la façon dont certains éléments du vécu vont compter comme expérience, comment certains affects vont devenir possibles. Qu'est-ce qui fait que il y a différentes strates en fait qui rendent la possibilité d'avoir un rapport à soi.
Angela Davis, là aussi, elle est présente dans votre réflexion. C'est une archive qui date d'octobre 1975.
D'abord, je dirais que de plus en plus, les Noirs aux États-Unis se rendent compte des relations qui existent entre le racisme et la lutte pour la libération des Noirs. Et le capitalisme et la lutte pour renverser un système économique exploiteur. De plus en plus, si vous regardez la situation aux États-Unis, vous verrez cette même évolution. Ce qui m'a décidé moi-même, c'était simplement la réalisation que le racisme, c'est une idéologie qui a été utilisée pour justifier d'abord la surexploitation des Noirs, d'abord pendant l'esclavage et puis après. C'est une idéologie qui a aussi été utilisée par la classe capitaliste, par la classe dominante aux États-Unis pour confondre les blancs. Parce que la plupart des blancs de la classe ouvrière, n'ont pas d'intérêt objectif à être racistes, parce qu'ils ne profitent pas du tout du racisme. Mais lorsque les blancs sont racistes, ils oublient. Ils ne peuvent pas avoir une conscience de la nécessité pour eux-mêmes de lutter aussi. Alors, je vois le racisme comme une fonction du capitalisme, mais ça n'est pas à dire qu'il ne faut pas mener une lutte très explicite, une lutte très militante contre le racisme. En effet, je dirais que l'aspect le plus important de la lutte contre le capitalisme, c'est la lutte contre le racisme.
Le racisme, bras armé du capitalisme.
Mais c'est vrai que Angela Davis a été, voilà, une des premières vraiment à penser cette articulation entre sexe, race, classe, et à proposer une voie féministe révolutionnaire, en fait, très radicale. Et elle s'inspire d'ailleurs, en fait, dans ses premiers écrits de Sartre, de Fanon, donc avec cette idée que la liberté est quand même au cœur de la réflexion et de la lutte. Et oui, moi, son travail a été très important pour moi. Il résonnait aussi avec les écrits de Richard Wright, donc qui est un écrivain africain-américain avec qui Beauvoir et Sartre ont beaucoup dialogué et qui conçoit vraiment le racisme comme voilà intriqué en fait à l'exploitation capitaliste. Enfin, il n'y a pas de toute façon, l'histoire états-unienne voilà a complètement intriqué ces systèmes d'oppression, ce qui ne veut pas dire qu'ils se confondent et que voilà la réconciliation est évidente, mais en tout cas il y a une histoire commune, une généalogie commune qui fait qu'il est difficile de séparer les choses. Et chez Wright, dans Un enfant du pays, Native Son, enfin, voilà, le jeune homme noir subit le racisme, mais aussi en tant qu'il est employé en tant que chauffeur dans la maison blanche bourgeoise de ses patrons. Donc tout est lié, en fait.
Et Angela Davis, elle a très bien montré comment précisément le blues chanté par par les femmes noires leur a au fond permis de se retrouver, et que ça a bouleversé même la perception qu'elles avaient d'elles-mêmes.
Oui, alors c'est un texte que j'aime beaucoup, Blues et féminisme noir, parce que justement elle montre que la transformation aussi, la transformation sociale, c'est aussi une transformation de l'intime, de ses affects, de la possibilité de prendre la parole sur scène en tant que femme noire, de danser ensemble, avec le jeu aussi des questions-réponses entre les chanteuses de blues, donc Bessie Smith, Nina Simone et le public. Donc c'est vraiment aussi une transformation esthétique, artistique, sensible, qui a permis aux femmes de nouer de nouveaux liens entre elles et donc d'avoir, de dire avec d'autres mots ce qu'elles vivaient ordinairement.
Et cette transformation, elle est nécessaire pour avoir en fait une conscience de classe et puis parfois aussi une prise de position politique. Et Fanon d'ailleurs parle de ça aussi avec la prise de conscience coloniale.
Non. Oui.
Non,
si,
une bêtise.
Si. Je me demande si c'est vraiment une conscience de classe. En tout cas, il y a un nouveau groupe qui se crée. Il y a une nouvelle forme de sororité entre femmes. Il y a une transformation donc des rapports qui sont très importants. Après, elle justement, Angela Davis, elle essaie de déplacer un petit peu cette idée d'une prise de conscience soudaine pour montrer que ça s'opère aussi au niveau des transformations très sensibles, affectives, parfois imperceptibles.
Mais quelquefois, ça met du temps aussi à venir. Et là aussi, vous montrez très bien, Michael Provost, comment la passivité, j'emploie le mot avec des guillemets, faut pas pour autant penser que c'est une absence d'activité ou que c'est une incapacité à agir, la passivité, en fait.
Oui. Moi, je voulais justement vraiment sortir d'un récit, de l'aliénation qui serait complètement accablant, qui réduirait les corps et les subjectivités à un état de passivité et de lassitude ou de fatigue, pour montrer qu'en fait les choses sont plus mêlées. Et parfois, oui, il peut y avoir une forme de passivité. Mais d'ailleurs, en phénoménologie, la passivité, c'est aussi une manière de recevoir une épreuve. Donc, il y a toujours cette articulation entre passivité et activité qui est assez complexe et qui permet de rendre compte de ce que j'appelle l'ambiguïté de l'expérience. C'est qu'en fait, l'oppression ne produit jamais un pur accablement, n'est jamais un pur anéantissement. Et en fait, dans les écrits que je travaille chez Fanon, chez Beauvoir, il y a cette idée que les corps peuvent réouvrir, peuvent resignifier des violences oppressives.
Mais il peut y avoir ce que Fanon appelle une momification de la pensée individuelle, une forme d'apathie qui peut aller même jusqu'à l'absence du désir de vivre.
Oui, et qu'il travaille aussi du coup en tant que psychiatre. Enfin, et comment on retravaille ce désir, comment on le redéploie par la pratique psychiatrique. Donc oui, le colonialisme crée une momification de la pensée individuelle, une pétrification des corps. Mais en même temps, chez Fanon, il y a toujours cette possibilité de réouvrir l'expérience, justement. Et ça me fait penser justement au chapitre dans Peau noire, masque blanc, lorsqu'il finit le chapitre « L'expérience vécue du noir » par la question « Ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui l'interroge ». C'est cette idée-là que le corps, malgré tout, malgré les violences raciales, malgré... Les forces oppressives est sans cesse le lieu d'une réouverture possible, et ça prend la forme d'un appel ou d'une sorte de prière qui est un peu énigmatique, mais du coup qui est très belle, parce que il envisage vraiment l'expérience et le corps comme le lieu d'un redéploiement possible.
La philosophe féministe Camille Froidevaux-Métry, c'était sur France Inter en octobre 2018, et elle a écrit un petit peu plus tard Un corps à soi.
Non seulement c'est pas une contradiction, mais en fait ce que j'essaie de penser, c'est que toutes ces thématiques corporelles qui font notre quotidien, la maternité bien sûr, mais aussi la question de l'apparence, mais aussi la question de la sexualité, notamment de l'hétérosexualité, tout ce qui nous occupe de façon si évidente chaque jour, n'était pas pensé sous l'angle de l'émancipation, mais quasi uniquement sous l'angle de l'aliénation. Dans la perspective phénoménologique que j'essaye de développer, ce dont il s'agit précisément, c'est de penser le corps des femmes, mais sous ces deux aspects, de lieu par excellence de la domination masculine, qu'il est bel et bien, mais comme vecteur d'émancipation qu'il doit être aussi, et cela permet de revisiter toutes ces expériences vécues, notamment l'expérience maternelle, mais aussi l'expérience hétérosexuelle, etc., au prisme de la libération, et de mettre au jour tous les mécanismes qui, souterrainement, continuaient d'enfermer les femmes dans leur corps, continuaient de définir les femmes comme étant des corps à disposition.
Le corps, une manière d'être au monde, perdre confiance en son corps, c'est perdre confiance en soi-même, hein, c'est Beauvoir qui écrivait ça.
Oui. Oui, oui, elle le dit bien, Beauvoir, dans Le deuxième sexe, parce que, en fait, elle retrace justement ces étapes d'une trajectoire féminine, depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et en fait, Beauvoir montre que les enfants vivent leur corps comme, elle le dit, le rayonnement d'une subjectivité. Donc en fait, les enfants ont un rapport assez libre, assez léger à leur propre corps. Ils jouent, ils grimpent aux arbres, ils s'éclaboussent. Enfin, ils ont un rapport assez libre. Et c'est petit à petit que les filles, les petites filles et puis les jeunes filles vont vivre une forme de désapprentissage existentiel. En fait, elles vont apprendre à être séparées de leur corps, donc à ne plus l'envisager comme le rayonnement de leur subjectivité, mais elles vont en fait intérioriser le regard masculin, intérioriser les normes patriarcales et perdre petit à petit confiance en leur propre corps. Et ça, c'est quelque chose de très important, puisque comme Beauvoir a une conception du corps comme lieu d'incarnation de la subjectivité, perdre confiance en son corps, c'est perdre confiance en sa propre pensée, en la possibilité de rêver, d'envisager l'avenir, de créer, donc de s'affirmer aussi et de trouver sa propre voie.
Et Frantz Fanon, alors là je le cite, « Dans le monde blanc, l'homme de couleur rencontre des difficultés dans l'élaboration de son schéma corporel. » Là aussi, il est question du corps.
Oui, parce que du coup, Fanon reprend cette idée de schéma corporel qui était une idée merleau-pontienne, et Fanon avait suivi les cours de philosophie de Merleau-Ponty, enfin de psychologie en fait, de Merleau-Ponty à la faculté de Lyon. Et Fanon reprend cette idée-là du schéma corporel qui est une sorte de conscience unitaire de notre corps et qui fait qu'en fait nous mobilisons notre corps sans avoir à penser à toutes les parties qui le composent. Donc ça veut dire que nous avons une connaissance habituelle et familière et fluide en fait de notre corps. Et Fanon montre que justement en situation d'oppression raciale, en fait, le schéma corporel s'effondre, enfin il dit qu'il s'écroule, qu'il laisse la place à un schéma épidermique racial, donc au sens où le sujet racisé, noir, en fait, est réduit à sa couleur de peau. Il est fixé. Il dit que voilà, qu'il est comme englué. En fait, on le fixe comme on fixe une préparation pour un colorant. Et ce schéma est aussi sous-tendu par un autre schéma historico-racial, qui est en fait le schéma composé de toutes les histoires, de toutes tous les mythes, toutes les images qui ont été dites et qui ont été fabriquées en fait à propos du sujet racisé. Donc en fait, le corps est sans cesse attendu au tournant, comme dit Fanon. Il est en quelque sorte perçu d'avance et il ne peut apparaître qu'au prisme de ces images-là, de ces mythes. Qui en font un type, en fait. C'est ce que dit Fanon dans ce chapitre assez important.
Mais on devient, au fond, on finit par devenir l'esclave de l'image que les autres ont de vous. C'est pareil aussi pour les femmes. Là, c'est presque quoi ? C'est une oppression intégrée, en quelque sorte.
C'est ça, c'est une sorte d'aliénation, en fait, au regard des hommes ou au regard des blancs. Et oui, un enfermement dans ce que les autres peuvent dire d'avance de nous, en fait.
Et comme si c'était, au fond, une donnée naturelle, c'est-à-dire comme si c'était là aussi, vous le montrez très bien, ça laisse à penser que c'était... Il y a une forme de répétition, donc ça laisse à penser que c'est là de toute éternité.
Oui, c'est ça, ça fige, en fait.
C'est
ça,
la temporalité circulaire dont parle Beauvoir.
Oui, complètement, ça fige et ça assigne à une place. C'est ça qui est très important, je pense, c'est que l'oppression, c'est ce qui réduit et c'est ce qui assigne à une place dont on sort difficilement. Enfin, c'est une question compliquée. Et du coup, ça crée une fixation dans l'apparaître, en fait. Comme dit Fanon, je suis... esclave de mon apparaître, enfin de l'image que les autres ont de moi, et c'est pour ça aussi qui déplace la réflexion sartrienne, en fait, dans les réflexions sur la question juive. Et Fanon montre que, voilà, dans le cas de l'oppression raciale, il y a une fixation et une aliénation à l'apparaître.
Alors, et c'est impossible aussi de se réapproprier, enfin, il y a une espèce d'instant présent vécu, mais il y a un horizon qui est quand même souvent bouché et un passé qu'il est impossible de se réapproprier d'une certaine manière.
Oui, il y a une sorte de fixation comme ça dans un présent éternisé que Beauvoir décrit très bien dans Le Deuxième Sexe lorsqu'elle dit que le temps tourne sagement en rond, que la vie des femmes en fait est scandée par des étapes comme ça très prévisibles, donc le mariage, la maternité.
Même la journée d'une femme est tout à fait prévisible, c'est ça aussi qu'elle montre.
Oui. Bah, c'est aussi du coup Jeanne Dielman d'Ackermann, enfin, cette espèce de temporalité complètement circulaire, prévu d'avance.
Jeanne Dielman, faut juste dire un peu ce que c'est. C'est Chantal Ackerman, c'est un film.
Oui, c'est un film. Et en fait, Jeanne Dielman, donc c'est une femme. C'est un film qui montre, qui donne à voir la temporalité très répétitive de l'oppression patriarcale. Et c'est donc une femme qui est filmée dans ses gestes les plus ordinaires, le fait de d'éplucher les légumes, de faire la vaisselle, de faire à manger. Et en fait, le film. S'intéresse à ce temps-là de circularité, de présent en quelque sorte éternisé, jusqu'à ce que ça explose en quelque sorte et qu'il y ait une sorte de tournant comme ça. Mais ça, c'est quelque chose, qui est très important pour Beauvoir et dans la réflexion sur ce qu'est le temps de l'oppression patriarcale.
Francis Wolff, c'était en novembre 2016.
Je ne connais pas d'autres idéaux que, au fond, peut-être bêtement, l'idéal de l'humanisme universaliste et rationnel. À condition que par ratio, rationnel, on n'entende pas la capacité d'une machine à calculer. À condition qu'on ne la sépare pas de la parole. En effet, plus encore que le langage, parce qu'il y a des langages machines, je préfère encore parler de parole. Et ce qui me semble constitutif de la rationalité humaine dans sa dimension morale, éthique, humaniste, c'est que là, il n'y a pas de parole véritable sans une double relation. La relation que j'ai avec mon interlocuteur et la relation avec la chose dont je parle. Et c'est un triangle essentiel. C'est-à-dire que si je ne peux pas parler d'une chose hors de nous, sur laquelle nous sommes d'accord pour en parler, je ne pourrai jamais, ne serait-ce que, être en désaccord avec mon interlocuteur. Pour que nous puissions être en désaccord, il faut que nous parlions de la même chose. Et qu'est-ce qui se perd, en effet, dans ces campagnes qu'on a appelées post-vérité? Eh bien, c'est des, je dirais presque que c'est des campagnes post-parole, c'est-à-dire où ce que la parole est réduite à ce que les linguistes appellent sa fonction fatigue ou sa fonction, la fonction dans laquelle on donne des ordres, dans laquelle on fait des imprécations, et non plus la faculté simplement où nous parlons de quelque chose et nous pouvons dire le désaccord ou notre accord sur la chose dont on parle. Vous n'avez pas la même définition de la justice. Parlons de ce qu'est pour vous la justice. Nous n'avons pas la même définition de la démocratie. Qu'est-ce que pour vous la démocratie? Sur quoi allons-nous pouvoir être en désaccord?
Et entre, donc c'était Francis Wolff, toujours limpide comme d'habitude, entre l'oppresseur et l'opprimé, quelle parole est possible, Michaël Provost? Parce que les mots ne sont pas les mêmes de chaque côté.
Oui, voilà. C'est ce que souligne d'ailleurs Nicole Clune-Mathieu, donc qui est une anthropologue. Elle dit que les mots sont toujours loin d'être communs entre l'oppresseur et l'opprimé, et que voilà, du côté du mouvement de libération des femmes, on parle d'oppression, là où on va plutôt parler de domination du côté voilà du groupe dominant, donc des hommes. Donc je pense que la question, elle n'est pas tellement de trouver un langage commun entre oppresseur et opprimé. Elle est d'abord de parvenir à savoir comment, du côté de voilà des expériences opprimées, on parvient à trouver une parole, enfin, et on parvient à partager des mots. Et cette question de la communication, je pense que pour le coup, c'est déjà, il faut arriver en fait à montrer une forme de conflictualité, donc à montrer l'impossibilité d'une communication entre l'oppresseur et l'opprimé. Travailler cette conflictualité, travailler l'antagonisme voilà social, et réfléchir du côté voilà des sujets opprimés à cette question du partage des mots, de la manière dont on donne à voir le pouvoir aussi.
L'expérience de l'oppression, tel est donc le sujet de l'heure philo ce soir. Vous l'aurez compris, John Lee Hooker sur France Inter avec Bonnie Raitt.
I'm in the mood, I'm in the mood of love. I'm in the mood, Lord, Lord, Lord. I'm in the mood, I'm in the mood, mood. I'm in the mood of love. I'm in the mood, I'm in the mood. Oh, Lord, I'm in the mood of love. When ready.
Yes, my dad.
Yes, he did.
But my dad didn't tell me, Lord God, what the man was putting down,
down, down, down, down, down, down. No, he didn't.
I'm in a mood for some of your love,
baby.
I'm in a mood. I'm in a mood for love.
Yeah.
Right, John.
With you, baby, I don't want to be with no one else. I can't get my thrill, baby. I'm loving to be with you. Go night, night time, right time. Oh, love to be with the one you love. I'm in the mood, baby.
I'm
on me, on me, on me.
I'm in the mood.
I'm in the mood.
Some of your love, some of your love.
I'm coming on.
Some of your love, some of your love.
Non mais ça aurait été dommage de l'interrompre tout de même. Michael Provost, pourquoi est-ce que le concept d'oppression n'a pas fait l'objet d'autant d'études que par exemple d'autres comme la domination, l'exploitation, la violence, l'injustice ?
Donc c'est un terme qui est ordinaire en fait, qui est mobilisé dans les mouvements sociaux, donc qu'ils soient féministes ou antiracistes, notamment dans les années 70. Hein, c'était un terme qui est présent dans les textes, présent dans les prises de parole. Et à mon sens, c'est un mot qui est très important parce que il donne à voir en fait une situation d'énonciation, de souffrance, d'étouffement, d'insupportable aussi. Donc, c'est déjà une certaine manière de mettre en scène le pouvoir et de donner à voir des corps qui sont sensibles, qui sont vivants, de donner à voir des subjectivités. Et donc, de placer aussi sur un pied d'égalité, en fait, voilà, les sujets opprimés comme sujets de parole, comme sujets pouvant dire quelque chose de ce qu'ils vivent. Et du coup, ça déplace un petit peu la théorisation classique du pouvoir, au sens où le pouvoir n'est pas ce qui s'applique d'en haut à des sujets passifs. On part vraiment d'un point de vue spécifique, on part d'un point de vue singulier qui cherche à énoncer quelque chose, qui cherche à parler et à dire quelque chose de ce qu'il ressent. Et du coup, à mon avis, c'est ça aussi la force de ce concept, c'est que ça nous sort d'une analyse surplombante, objectivante et très extérieure par rapport aux réalités qu'elle prétend décrire.
Albert Camus, c'est une archive INA de septembre 1955.
La révolte, comme tous les mouvements de l'esprit ou du cœur humain, c'est à la fois la pire et la meilleure des choses, et il est tout à fait naturel qu'un écrivain qui s'intéresse aux passions de l'homme autant que de son intelligence essaie de donner à ses passions la plus grande efficacité, la plus grande utilité possible sur le plan de la vie la plus simple comme sur le plan de la vie sociale. Et j'ai essayé de tirer en effet de la révolte les éléments d'une attitude qui ne soit pas une attitude de pure destruction, de pur nihilisme, ce qui s'explique assez si on veut bien considérer que je ne m'intéresse pas au nihilisme contemporain par goût esthétique ou personnel, je m'y intéresse dans la mesure où il est possible de le dépasser.
Alors la révolte, elle est présente chez Beauvoir, elle est présente chez Fanon, elle n'a rien d'évident.
Non, elle n'a rien d'évident et... Alors moi j'ai moins travaillé du coup sur Camus, mais je pense que chez Beauvoir et chez Fanon, la question de la révolte, elle est liée à la libération collective, donc à la possibilité de se défaire des structures sociales d'oppression. Et la révolte, elle a rien d'évident. Et en même temps, ce qui est intéressant dans leurs écrits, c'est que l'oppression présuppose quand même une certaine forme de liberté. Puisque pour ressentir de l'oppression, pour percevoir une violence comme étant insupportable, il faut qu'on ait placé la liberté au cœur de notre existence. Donc il y a une certaine forme de dignité ou d'espoir, enfin, qui soit engagé en fait dans une certaine forme de vie. Et du coup, c'est à l'aune de cette liberté-là que l'oppression va être pensée, chez Beauvoir comme chez Fanon, en fait. Et chez Sartre aussi, d'ailleurs. Cette idée que l'oppression ne s'applique pas à des sujets passifs. Elle s'applique à des sujets, justement, libres et qui sont prêts, quand même, malgré tout, à se révolter. Après, la question, c'est comment l'organiser.
Mais ils ne savent pas toujours, c'est ça. La ligne d'action ne va jamais être imposée d'avance. Mais quand est-ce qu'on sait qu'un combat est gagné?
En tout cas,
provisoirement.
Oui. En fait, c'est un peu la question de Fanon au début des années. Qu'est-ce qui fait exploser la marmite, en fait? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, justement, on sort de la momification de la pensée, qu'on sort de l'apathie, qu'on sort de la lassitude et qu'une révolte s'organise? Et ça, ça se joue à des niveaux qui sont à la fois collectifs, comment le peuple parvient à se réunifier, comment les alliances se construisent, comment les solidarités se nouent, et en même temps à un niveau très intime, très subjectif, très perceptif aussi. Tout d'un coup, une réalité de violence va apparaître pour ce qu'elle est, en fait, dans toute sa réalité.
Simone de Beauvoir et Frantz Fanon, si proches et si lointains, la différence entre eux est irréductible, écrivez-vous. Ils se sont rencontrés une fois à Rome. On sait comment ça s'est passé?
Oui, bah, c'est mal passé, en fait, puisque Fanon trouvait que Beauvoir était complètement omniprésente. Et puis, enfin, voilà, il aurait dit, selon sa biographe Alice Cherki, que Beauvoir avait tout le temps envie d'aller dormir, en fait. Elle interrompait tout le temps les discussions qui se tenaient entre lui et Sartre. Donc c'est aussi une conflictualité qui révèle des différences dans leurs pensées et dans leurs engagements politiques.
Merci beaucoup Michaël Provost. L'expérience de l'oppression, une phénoménologie du sexisme et du racisme, c'est publié aux Presses universitaires de France. Merci.
Merci.